Et ben voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro du Temps des Copains. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel opus. Belle journée à toutes et à tous. Bye bye. One, two, three,
des copains, l'émission des années 60 sur RVE. RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, la canicule commence à diminuer. Un net rafraîchissement est attendu dès aujourd'hui par le nord-ouest du pays. L'atmosphère va donc être un peu plus respirable. La vigilance orange a d'ailleurs été levée pour une majeure partie du pays. Il n'y a plus que 30 départements majoritairement situés dans le sud, toujours placés sous vigilance orange canicule pour le moment. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé sous un soleil de plomb hier à Paris pour la 41e édition de la Marche des Fiertés. La PMA pour toutes était un des principaux slogans et une des principales revendications du cortège. Un projet de loi sur l'extension de la procréation médicalement assistée doit être débattu à l'automne. Donald Trump a invité Kim Jong-un à lui serrer la main aujourd'hui. À l'occasion d'un voyage officiel en Corée du Sud, le président américain souhaite dire bonjour au dictateur nord-coréen à la frontière des deux Corées. Pyongyang, après avoir décliné l'invitation, l'a finalement jugée intéressante. La rencontre va avoir lieu dans les prochaines heures, puisque Kim Jong-un a accepté la proposition de Donald Trump. Le président sud-coréen Moon Jae-in participera à cet événement. Vladimir Poutine a annoncé avoir trouvé un accord avec l'Arabie Saoudite pour une baisse de production pétrolière dans le but de soutenir les cours. Celui-ci pourrait être prolongé entre 6 ou 9 mois, selon les déclarations du président russe en marge du sommet du G20. Enfin, du sport et du football féminin, hier, lors des quarts de finale de la Coupe du Monde, les Pays-Bas ont battu l'Italie 2-0. D'un autre côté, la Suède a battu l'Allemagne 2-1. Le prochain rendez-vous avec le football féminin, c'est mardi. En demi-finale, l'Angleterre affrontera les États-Unis et puis la Suède jouera contre les Pays-Bas.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 40e et dernière émission de la saison. Mais alors on va vous gâter, on va naturellement parler de ce qui s'est passé la semaine dernière donc à la base nautique de Vers-sur-Marne. On y était pour l'inauguration officielle du premier site de 2024. On reviendra sur les défaites de nos équipes de France de foot féminine et espoir. On va aussi parler de boxe française avec notre invité Jean-Jacques Lenôtre. Et puis on va prendre une petite leçon de golf, où on va bientôt partir en vacances. Donc Fabien va tout nous dire pour bien jouer au golf durant cet été. On fait un petit tour de table. On salue celui qui a marié sa fille la semaine dernière. C'est notre ami José Vega. Ça va, José?
Oui, bonjour, ouais. Philippe, bonjour à tous. Remis, ça va très bien. Oui, ça y est, remis de mes émotions. Le mariage s'est très bien passé. Mm-hmm. Et en plus, il a fait beau. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il fait beau et il fait moins chaud qu'hier. C'est très bien comme ça.
Ouais. Très bien. Allez, on va donc avec José et Francis. On ne parlera pas de chevaux aujourd'hui, mais on parlera foot. Je salue le président, l'homme à tout faire de la section savate de Rambouillet, Jean-Jacques Lenôtre. Jean-Jacques, bonjour.
Bonjour Philippe.
On avait promis de faire un petit point avant de partir, donc en congé. Vous avez une promesse, c'est bien.
Oui, merci beaucoup. Ça va faire l'occasion de parler un petit peu de nous, de parler des beaux résultats qu'on a eu cette année. C'était une très très belle saison sportive.
Très bien. Allez, notre ami Fabien qui est avec nous. C'est un plaisir de l'avoir chaque fin de mois. Salut Fabien, ça va?
Salut Philippe. Salut à toutes et tous. Voilà. Ça va super bien. Il fait beau, il fait plus frais. Un temps idéal pour jouer au golf et pour faire plein de sports, donc au top.
Très bien. Et puis on salue notre ami Francis. Ça va Francis?
Bonjour Philippe.
Pas
bonjour
trop déçu de ces féminines?
Non, l'homme. Mais c'est une belle aventure.
Ouais.
Ça a mobilisé un peu les Français, c'est bien, ça les a occupés un peu pendant cette chaleur.
Très bien, on va en parler au cours de cette émission. Alors, je vous avais promis de revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir le week-end olympique, puisque on avait fêté un peu Paris 2024 un peu partout en France, notamment à Paris. Et dans ce cadre, il y avait l'inauguration de la base nautique de Vers-sur-Marne. C'est le premier site qui a été inauguré, c'était samedi dernier. On a eu le privilège, nous, d'être invités sur l'événement. Alors on va écouter tout de suite la première interview. Vous savez que on a inauguré cette base d'Aviron, hein, qui déjà est en place. Et puis on a inauguré aussi ce qui va servir de pour le canoë kayak. Donc ça a permis ensuite, eh bien, aux principaux intervenants et autorités de faire un petit tour de rafting, hein, notamment la ministre Roxana Maracineanu, Valérie Pécresse et puis aussi Tony Estanguet. Alors tiens, on a demandé à Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional d'Île-de-France, comment elle avait trouvé ce petit tour de rafting.
Allez, on y va. Allez, vas-y.
Comment c'était cette descente, première descente ?
C'était juste génial. Du raft, comme vous adoreriez en faire en Île-de-France. Du canyoning, comme dans les plus belles des rivières de toute la France.
Là, c'est le premier équipement olympique, c'est ça, parle-nous de ça.
C'est le premier équipement olympique, mais c'est aussi un équipement unique en Europe, la plus grande base nautique, à la fois en eau vive et à la fois en eau calme. Donc, je crois que ça va être un grand moment pour tous les franciliens qui voudront s'essayer au canoë, qui voudront s'essayer aussi à l'aviron.
En quoi est-ce que c'est une journée importante aujourd'hui ?
C'est une journée importante parce que ça montre, l'esprit des Jeux Olympiques. L'esprit des Jeux Olympiques, c'est certes de faire des grands équipements pour nos futurs champions, leur donner les plus beaux équipements pour qu'ils nous rapportent des médailles, mais c'est aussi s'adresser au grand public, aux Français, leur permettre de participer à des compétitions toutes les semaines, de s'initier à des nouveaux sports, bref, de mettre la France en basket et en chaussures de bateau.
Il y aura des initiatives, Madame Pécresse, hein ?
Évidemment des initiatives. Là déjà la base nautique de Verre va être ouverte tout le week-end pour cette fête du sport. Et c'est l'héritage des Jeux. Donc l'idée c'est que dans cette base de loisirs qui accueille tous les franciliens gratuitement, eh bien, il puisse y avoir des initiations à tous ces sports nautiques. Et peut-être que des graines de champions vont naître, mais qu'en tout cas les Français vont adorer.
Ça vient dans un beau week-end de sport, hein, en général.
Ah oui, non, mais ça va être un week-end extraordinaire, un week-end de fête du sport, un week-end olympique. Vous savez, le sport, ça rassemble. Les valeurs sont puissamment éducatives et puis c'est des valeurs de dépassement de soi, de respect, de cohésion. Donc on est extrêmement fiers, avec la ministre, de faire cette fête du sport.
Merci. Voilà donc pour Valérie Pécresse, la présidente du conseil régional d'Île-de-France, concernant l'inauguration de cette base nautique. Alors justement, on a demandé aussi à la ministre, Roxana Maracineanu, quels étaient ses sentiments. Et elle nous confirme que c'est bien le premier équipement dans le cadre des Jeux de 2024 qui a été donc inauguré.
Oui, c'est le premier équipement qu'on a construit de zéro pour les Jeux de 2024. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir 95% d'équipements déjà construits, mais la majorité sont dans Paris. C'est vrai que ça a l'avantage de proposer aux spectateurs, aux participants, ce cœur de ville parisien qui est magnifique avec ses monuments, des belles images qu'on pourra faire et transmettre dans le monde entier. Mais l'enjeu, c'est aussi de faire participer le reste de la France, les autres départements, les autres régions. Ici en Seine-et-Marne, c'est important d'avoir cet équipement d'envergure internationale pour pouvoir accueillir et dynamiser aussi le territoire avec l'accueil de compétitions internationales en amont des Jeux, pendant les Jeux, après les Jeux. Et puis surtout, faire bénéficier la population, les franciliens, les habitants de Seine-et-Marne aussi, de cet environnement exceptionnel, de leur faire découvrir ce que sont ces sports un peu confidentiels, le kayak, le canoë, le rafting qu'on vient d'essayer, l'aviron. Parler des Jeux, c'est aussi ça, c'est l'héritage pour toutes ces disciplines aussi.
C'est symbolique aujourd'hui, ça y est, on touche du doigt les JO.
Oui, c'est à 4 ans des Jeux, on est tous ensemble, la région, les collectivités, la mairie, tous les élus et puis les fédérations et les clubs sportifs ensemble avec l'État pour inaugurer cet équipement qui illustre le fait qu'on a envie d'engager toute la France dans cette aventure des Jeux. Et pas seulement les sportifs de haut niveau, les Jeux ça concerne tout le monde, ça concerne la population. Et cet endroit qui sera animé au quotidien par l'UCPA, une association qui œuvre aussi pour la population de manière générale, qui gère des équipements, et bien c'est aussi permettre d'ouvrir ce type d'équipement au grand public et leur faire essayer les circuits qui serviront aux Jeux. Eh bien, dans leur quotidien, avec leur famille, pendant les week-ends où il fera beau comme aujourd'hui.
Le parcours, là, c'était comment ?
C'est super, c'est vraiment une découverte. Moi, j'avais vu Tony gagner ses médailles à la télé, et puis on ne s'imagine pas combien c'est grand, ce que ça peut donner en termes d'environnement autour, puisqu'en fait, la caméra est braquée vraiment sur le sportif quand il pratique et quand il est en compétition. Là, on se rend compte aussi de tout ce qu'il y a autour, voilà, du plaisir qu'on peut prendre à être sur un plan d'eau quand il fait chaud dehors. Et voilà, donc je pense que ça bénéficiera à tout le monde et c'est ça l'héritage qu'on veut laisser avant les Jeux et après les Jeux en France.
Justement, pour l'héritage après les Jeux, pour en revenir une seconde là-dessus, ma grand-mère de 75 ans, demain, qui a envie d'essayer l'aviron, pourra le faire ici.
C'est ça qui est extraordinaire. Il y a un gestionnaire qui gère l'équipement au quotidien, l'UCPA qui va pouvoir accueillir les familles pour un prix modique. On pourra essayer une ou deux heures tout cet équipement qui d'habitude est destiné aux sportifs de haut niveau, pouvoir bénéficier de tout ce bassin avec des courants. Et c'est quelque chose, comme dit, qu'on voit que à la télé d'habitude pendant les Jeux. Et là, on va pouvoir vraiment le tester en vrai. Et c'est vraiment dans l'idée aussi de ces Jeux Olympiques à Paris et qui veulent s'ouvrir pendant la compétition, faire tester aux spectateurs et aux gens qui viendront voir les Jeux vraiment les équipements et pouvoir aussi s'initier à l'activité qu'ils ont envie de pratiquer pendant les Jeux et pouvoir l'exprimer au moment de la compétition. Du coup, c'est aussi un formidable terrain d'entraînement pour tous ceux qui auraient envie de se mettre au canoë, au kayak ou à l'aviron.
Tenir Stanguet d'un jour.
Voilà.
Voilà, elle est enthousiaste en tout cas, Madame la Ministre. José, un tour de table, les Jeux, impatient d'y être en 2024?
Oui, on attend ça avec impatience pour faire voir au monde entier quand même quelques beaux équipements et la ville de Paris qui est assez connue dans le monde mais qui sera peut-être encore mis plus en lumière. Et c'est très bien pour le sport et que ça se passe en France, c'est très bien.
Et c'était sympa la semaine dernière, ce qui s'est passé un peu partout en France, notamment à la Concorde, on en avait un peu parlé. Jean-Jacques, on peut regretter que la boxe française soit pas sport olympique?
Et oui, ça c'est un gros regret, on l'a encore vu cette année. On a, je crois que la fédération a essayé, mais malheureusement, bon, il y a eu d'autres sports. Ça va peut-être aussi, on en parlait tout à l'heure, rajeunir effectivement certaines disciplines en faisant venir des disciplines un peu plus fun, quoi. Ça va être sympa aussi. Moi, ce que j'attends beaucoup, c'est de voir notamment l'escrime au Grand Palais. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses aussi sur le champ de Mars.
Oui, parce que c'est vrai, notre sport, c'est un dérivé de l'escrime.
Oui, quelque part. Hein, donc, on est, puis on les côtoie, nous, au niveau du club. On côtoie beaucoup le club d'escrime.
Oui, on les connaît bien. Ils étaient venus à ce micro au mois de janvier,
Voilà, donc j'attends, puis surtout dans le Grand Palais, ça va être magnifique.
Bon, Fabien, les Jeux Olympiques en 2024, on est tous déjà enthousiastes. On a vu Valérie Pécresse et puis Roxane Arme, Marin-Cinéa nous. Elles ont hâte, hein.
Je leur souhaite. Alors moi, je suis un peu plus partagé.
Ah, il y aura du golf pourtant à Saint-Quentin.
Oui, il y aura du golf sur un très très beau parcours, le golf national. Après, si on fait des jeux pour que derrière les disciplines sportives progressent.
Oui, et que ça soit, et que ça soit, et que ça soit,
ouais, enfin, il y a un paquet de choses que les politiques disent et ont parfois du mal à tenir. Et moi, très honnêtement.
Oui.
Alors oui, évidemment, moi je suis un amoureux du sport, c'est formidable, c'est maintenant on vient de vivre une Coupe du monde et on va en parler après féminine, enfin navré, mais j'ai parcouru Paris aux alentours de 15h donc quelques heures avant le France
la France était États-Unis. Pas arrêtée quoi, la France était pas arrêtée.
Mais très honnêtement, personne ne pouvait voilà, alors si derrière les politiques et le ministère des sports ont fait un cheval de bataille pour le développement des disciplines pour aller chercher de nouveaux licenciés.
Mais je crois que c'est le but, au départ c'est le but, hein, c'est les discours. Après, bon.
Ben, je suis comme Saint Thomas.
Oui. Francis?
Ben, c'est surtout l'occasion d'avoir des équipements nouveaux, parce que bon, on parle de la base nautique.
Mais après, qu'il faut réutiliser aussi pour le sport de base, justement.
Oui, parce que des sports nouveaux qui juste pour rappel, ils font quand même des trucs avec nos impôts, hein.
Oui, 90% de privés, hein, qui vont payer les Jeux, hein. C'est ce qu'a dit Tony Estanguet, hein. Bon.
Bah, c'est bien de le savoir.
C'est bien de le savoir. Mais enfin, c'est comme le Vélodrome National, hein. Ils ont fait un PPP et puis on s'aperçoit qu'ils ont du mal à l'exploiter parce que ça coûte trop cher.
Il y avait eu des championnats d'Europe.
Ce que j'attends surtout, moi, c'est la base, enfin la piscine olympique, quoi. Parce que bon, là, la base nautique, c'est un frétillement, je dirais, des Jeux Olympiques. Je sais même pas si la base nautique n'était pas prévue avant les Jeux Olympiques.
Non, mais elle était prévue pour les Jeux de 2012 qu'on n'a pas eu. Hein. Le bassin d'aviron, comme j'ai dit, existait. Bon, il n'y avait pas le bassin de canoë. Là où il y a eu le rafting, ils ont monté les eaux, ils l'ont inauguré à travers ce raid de rafting. Bah écoutez, on va écouter maintenant donc Denis Masseglia, le président du CNOSF, un comité national olympique et sportif français, qui lui, naturellement, était ravi de ce week-end olympique. Allez, donc avec Denis Masseglia, Denis, jour important ici, aujourd'hui, donc dans cette base nautique de Vers-sur-Marne.
Jour important parce qu'il est le symbole de la concrétisation de beaucoup d'années de travail, de projet à projet qui n'en finissait pas de ne pas aboutir. Et donc, aujourd'hui, pour moi qui ai le souvenir d'avoir été concerné dès l'origine, et c'était en 1989, donc il y a 30 ans, c'est une forme d'aboutissement et je pense que ce qui est présenté aujourd'hui est absolument remarquable parce que il y a d'abord une entente entre les deux fédérations. Ensuite, il y a toutes les disciplines du canoë en particulier avec un nouveau stade d'eau vive qui a été le plus long à mettre en œuvre et qui permet de, justement d'avoir un objet dans lequel, un outil plutôt dans lequel il y a beaucoup de mutualisation. Et autant on peut douter de l'efficacité d'un dispositif dans lequel il n'y aurait que les athlètes de l'aviron, que les athlètes de, du canoë-kayak au plate ou que les athlètes du canoë-kayak au vive. Là, en rassemblant les trois, on a franchement un potentiel d'utilisation remarquable qui permet de justifier qu'il y a un hébergement, qu'il y a des salles, qu'il y a un équipement en tout point performant et qui va être utilisé pour le rayonnement du sport français. Voilà, c'est bien.
Oui, et puis en plus, c'est un équipement grand public qui va servir au sport de masse, à tous les pratiquants.
Mais justement, c'est ça qui est bien aussi, parce que d'abord, ça permet de susciter des vocations, et puis ensuite, et c'est la particularité des sports nautiques. Je veux dire, il y a la place ici. Hein. Voilà, on va pas se gêner. On n'est pas comme dans une piscine où il faut réserver des couloirs, etc. Donc là, il y a même de quoi y mettre des pêcheurs, des baigneurs, des promeneurs. Moi, je pense que c'est un vrai site de pleine nature qui doit être au bénéfice des populations et des sportifs. Voilà, tout le monde fait bon ménage s'il y a des règles.
C'est ça qui est important, hein, le mouvement sportif, le conseil régional, Paris 2024, tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Ben, on s'est dit dès le début de l'année qu'il fallait faire mieux ensemble, donc on se met ensemble pour mieux faire ensemble.
Et puis ça s'inscrit dans un grand week-end consacré à l'olympisme dans notre département.
Alors c'est le week-end de la journée olympique, puisque celle-ci se célèbre le 23 juin. Il se trouve que le 23 juin tombe un dimanche cette année. C'est un peu particulier. Il y a aussi l'inauguration du siège du CIO. C'est aussi un point d'orgue de cette journée olympique 2019. Donc ça commence à Vers. Ça va se poursuivre dans Paris cet après-midi, demain. Voilà. Donc c'est un beau week-end de sport et d'olympisme.
Merci Denis.
De rien.
Voilà pour le président du patron du sport français, Denis Masséillan. On finit naturellement avec Tony Estanguet. Il était tellement content de reprendre du service, Tony, qu'il a fait, au lieu de faire un tour de rafting, il en a fait trois. Allez, Tony Estanguet.
Vous avez pu avoir la chance de tester un petit peu l'eau vive. Qu'est-ce que ça a donné? Comment on se sent?
Ah mais on se sent bien. C'est vrai que c'était un moment très sympa. Je me suis régalé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de canoë. Et de venir ici inaugurer un stade olympique de canoë kayak slalom, je me suis régalé. C'était vraiment super.
Ah oui, on a même fait un petit tour en plus, j'ai cru comprendre.
Exactement. Hein, on fait durer un peu le plaisir. Non, c'est vrai que c'était sympa. J'étais bluffé par déjà la qualité de l'eau. Moi, je suis plus habitué aux eaux des Pyrénées, des Alpes. Et c'est vrai qu'ici, l'eau est chaude. J'ai trouvé très propre. Et le bassin était vraiment très très sympa. Je me suis régalé. Donc du coup, j'ai fait un ou deux tours de plus. C'était pas prévu, mais c'est pas grave.
Donc si je comprends bien, vous repartez pour 2024 comme compétiteur. Non, je blague. Hein.
Non, je me suis quand même rendu compte que mes limites physiques étaient atteintes parce qu'au bout de 3-4 tours, je commençais un peu à fatiguer. Donc non, je pense que j'ai plus la caisse, mais vraiment, je me suis fait plaisir. Ouais.
On inaugure aujourd'hui le premier site livré des JO 2024, JOP pardon. Est-ce que c'est un jour important? Pourquoi?
C'est forcément un jour important d'inaugurer un site olympique et paralympique de Paris 2024, parce que ça veut dire que ce projet, il avance bien, il avance vite, on reste dans le budget, on reste dans les temps, et voilà, on livre les échéances telles que c'était prévu, et on a vraiment un équipement de très haut niveau là, avec les fédérations d'aviron, les fédérations de canoë kayak, eau plate, eau vive, à la fois olympique et paralympique. On sent que vraiment cet équipement, il est à la fois pour le très haut niveau, mais aussi pour le grand public. Et ça, pour nous, c'était vraiment important de considérer que ce projet, il doit permettre à tout le monde de faire plus de sport et de découvrir ces disciplines olympiques et paralympiques.
Parfait, c'était ma prochaine question.
Merci en tout cas. Merci Tony. Voilà, merci à Tony Estanguet, interview faite avec l'ensemble de nos confrères d'une façon générale. Faire plus de sport, c'est pour tout le monde, pour tous les Français. Et les Français, ça sera un des objectifs Raisonnable.
Oh oui, je pense que pas de problème. Hein, il faut. on va même maintenant du sport sur ordonnance, mais il faut y aller. Il n'y en a pas besoin même.
Faut que ce soit de ça que devienne une culture, mais il faut que dans le scolaire, ce soit plus institué que ça, quoi, parce qu'actuellement, bon, on fait 3 tours de gymnase et on rentre à l'école.
C'est ça. Il faut donner un but à notre jeunesse. C'est très bien.
Fabien, c'est parce que la France, elle n'est pas encore complètement sportive.
À mon sens, évidemment non. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que le sport a des valeurs éducatives incroyables, que ce soit un sport de combat, un sport individuel, et un sport d'équipe. Et je suis toujours extrêmement surpris qu'aucun ministre, ou en tout cas de manière très light, n'est jamais pris à bras le corps ce prétexte entre guillemets et de dire ben voilà, on a des soucis, on parle toujours des, c'est toujours très politique, mais ok, on va se servir du sport comme on le fait aux US, comme on le fait dans d'autres pays. Moi j'ai connu le Brésil parce que j'y habitais, c'est la même chose. Eh bien on se sert du sport pour l'éducation, mais pour l'éducation, je dirais, quotidienne, et apporter un respect, un dépassement de soi, voilà. Je l'ai entendu tout à l'heure de Valérie Pécresse, c'est très bien. Mais maintenant, let's go, quoi.
Très bien. Le bon côté des choses, c'est qu'actuellement, tout ce qui se construit en termes de collège ou de lycée incorpore un gymnase. Mm-hmm. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années.
Bon, il y a des progrès, alors.
Il y a des progrès.
Voilà. Allez, la pub, la musique. Ensuite, on parle justement de la défaite de nos deux équipes de France, espoir et féminine, de boxe française et de golf. On y va.
DMP Doc des matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et stockiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Information importante.
Vous, oui, vous qui êtes en voiture, au bureau, à la maison, là, derrière votre radio. Attention, augmentation du prix de l'électricité de plus de 5,9%. Alors pensez à hampoulled.com. Découvrez ces ampoules LED, ces luminaires LED, ces projecteurs LED, ces bandeaux LED et aussi ces éclairages de jardin et terrasse pour vos soirées d'été. hampoulled.com est joignable facilement et toujours à votre écoute. Besoin de renseignements, d'un conseil? Appelez hampoulled.com au 01 30 88 97 54. Un spécialiste est disponible pour vous accompagner dans votre commande. hampoulled.com, c'est simple d'utilisation. hampoulled.com, c'est la fête des éclairages LED tous les jours.
hampoulled.com, 01 30 88 97 54, 01 30 88 97 54.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie bijouterie joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi. Remise exceptionnelle de 20% du 22 au 29 juin.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture et caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
RVE, vivez votre région. RVE, 103.7.
Don't pray.
It's been a worthless year. I'm a man of three fears. Integrity, faith, and pocket of tears. Trust me.
Oui, cette émission, comme toute celle de la saison, hein, vous pourrez pendant vos vacances d'été la réécouter en podcast. Messieurs, on parlait des Jeux Olympiques. Bon, l'équipe de France féminine n'ira pas aux Jeux. Elle a été logiquement battue par les USA de Buzyn en quart de finale vendredi, après avoir laborieusement battu donc le Brésil en huitième de finale 2-1 après prolongation. Mm-hmm. L'aventure s'arrête là. C'est logique, c'est mérité.
On peut dire oui, c'est logique, mais bon, on peut avoir des regrets. En première mi-temps contre les USA, bon, ils ont pas été à la hauteur.
Inexistante équipe de France.
Disons, oui, pratiquement inexistante. Même le Sommer, Torrent derrière, la faute sur le premier but vient de Torrent à droite. Et ils ont été en deçà. Bon, on s'attendait à mieux. Est-ce qu'elles ont eu peur de l'événement? Je sais pas, peut-être. Mais elles ont pas joué comme elles auraient dû.
Ouais. Il aurait fallu
je pense qu'elles étaient un peu plus.
crispe tout le match.
Elles étaient un peu crispées. En deuxième mi-temps, bon, on a eu un petit peu l'espoir avec la tête de Wendy Renard sur un magnifique but. Mais bon, bah, ça s'est arrêté là, quoi. Il aurait fallu que le match dure encore un quart d'heure. Mais je ne sais pas si même comme ça on aurait marqué, parce que Rapinoe, l'américaine qui a marqué les deux buts,
hyper efficace,
elle a été ouais, sur le, tout le front de l'attaque, avec Alex Morgan aussi qui a bien attaqué. Elles n'ont rien lâché, les américaines. Bon, on a été moins bonnes que les américaines, moins bons que les américains. Et donc, bah, c'est logique, quoi. On va dire que c'est logique.
Francis, qui fait souvent la promo du foot féminin, bon, l'aventure s'arrêta. Ça a quand même été une bonne promo pour le foot féminin.
Donc,
on voit pas des matchs terribles quand même en Coupe du Monde, hein. Faut le dire.
Non, mais c'est une bonne promo pour le sport féminin, pour le foot féminin.
Oui,
Moi, ce que je déplore, moi, sur le match de l'équipe de France, c'est le coaching de Corinne Diacre. S'obstiner avec les mêmes, je dirais, les vieilles, entre guillemets, au milieu de terrain, ça a été à notre défaveur. On savait tous que Marion Thauron n'avait pas de vitesse. Et, bon, les Américains ont appuyé, les Américaines ont appuyé où ça fait mal, quoi. Donc, elle a toujours été dépassée. Bon, après, faire les changements à 10 minutes de la fin...
Oui, elle aurait pu faire, disons, rentrer Delphine Cascarino un peu plus, un peu plus tôt, parce qu'elle a apporté un peu plus de percussion.
Elle pouvait en faire rentrer 15.
Oui, c'est vrai.
Enfin, pardon, elle pouvait jouer à 15 contre les 11 américaines. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même être un petit peu...
Le déficit technique était là, il y a tout fait.
Oui, non, mais il n'y a pas que... Non, mais très sincèrement, moi, je vous pose une question, mais vous avez vu... Alors, à part contre la Corée, mais qui doit être la 300e nation mondial de foot, vous avez vu des bons matchs, vous?
Moi, de l'équipe de France.
Non, mais non. Est-ce que vous avez vu des fonds de bons matchs? Moi, je suis navré. Alors, je suis français, je suis très fier. J'adore la Marseillaise, surtout quand on gagne. Mais à un moment donné, il faut être honnête. Mais ça a été d'une pauvreté technique, d'une pauvreté dans l'engagement. Dans cette Coupe du Monde est en France, mais à quel moment on a vu une équipe se rebeller? Alors on a vu 11 nanas courir après un ballon, essayer tant bien que mal de se faire des passes. Alors le problème, c'est qu'à un moment donné, c'était plus trop drôle. J'ai cru qu'il y avait un nouveau sport où les bleus donnaient le ballon aux blancs et les blancs voulaient pas du ballon, donc leur donnaient aux bleus.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de ballons perdus.
En toute sincérité, alors moi, c'était très enthousiaste.
Oui.
C'était très enthousiaste parce que c'est vrai que on a senti que
c'était vivant. Voilà. Ça se roule pas par terre comme les mecs, là, tous les 5 minutes.
Il manque aussi un peu d'Ouliganette, hein, pour mettre un peu d'ambiance.
Manque les pom-pom girls, comme
non,
en,
mais
en Amérique.
Je pense que il y a deux images, il y a deux façons de voir cette Coupe du Monde. C'est, on est toujours quand même très fiers en France.
C'est tout même un succès populaire pour, je dirais, ne serait-ce que pour l'organisation, je pense.
Ouais, moi, je dirais que c'est un succès du groupe TF1. C'est un succès des annonceurs, qui ont parié sur cette Coupe du Monde, ils ont bien fait de le faire. Après, un succès populaire, je le disais en aparté.
Les places n'étaient pas chères, hein, par contre. Faut le dire. Hein.
Voilà. Alors, il est vrai, par contre, moi, j'ai des gens, je prends un exemple. À un moment donné, j'ai appelé mon fils aux alentours de 20h30, je sais plus quel jour. Il m'a dit, papa, je te rappelle, je suis au match. Et je lui ai dit, mais quel match? Et il est allé voir. Un match. Donc, c'est clair qu'il y a eu un engouement, il y a eu une curiosité, mais à un moment donné, il aurait fallu un petit peu plus de fond. Et moi, je ne veux surtout pas, parce que Corinne Diacre, je ne la connais pas, mais pardonnez-moi.
Elle a été maintenue.
Elle me fait... Enfin, alors, c'est sa personnalité. Hein, Aimé Jacquet n'était pas forcément...
très étonnant. Oui, tout à fait.
Sauf que quand on l'a vu... Alors, moi, j'ai la chance de le connaître personnellement, quand on l'a vu ensuite dans le reportage Les Yeux dans les Bleus, on a vu un mec qui était capable de dire... Qui était capable de dire à Pires, mon gars, si tu muscles pas ton jeu, et de manière beaucoup plus ferme que ce que je le fais là. Voilà, c'est dommage, mais c'est une belle expérience, j'imagine, pour les filles. Et il y a toujours un gros paradoxe, comment une équipe comme Lyon gagne autant de Champions League et montre un niveau technique et de performance incroyable, et qu'on a du mal à transformer. J'ai l'impression qu'on revit un peu ce qu'on a connu dans le foot masculin il y a quelques décennies.
Bon, autre déception aussi, les espoirs français les Bleus qui sont certes qualifiés, eux, pour les Jeux Olympiques, mais pareil, laminés par l'Espagne 4-1 après un nul contre la Roumanie 0-0. Là aussi, Fabien, on se demande comment cette équipe a pu lisser son niveau de jeu, parce qu'elle n'a pas montré grand-chose quand même, et quand même, avec un peu de réussite, elle arrive en demi-finale.
Ouais, et puis moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'avenir, parce que on a une génération extraordinaire qui joue en A. Il y en a quand même deux, trois qui tapent à la porte des A. Et très honnêtement, quand on, moi, j'ai vu les deux derniers matchs.
Moi, j'ai vu tout de
suite. Ça nous laisse perplexe.
Non, pas de fond de jeu. Hein.
Ça nous laisse perplexe pour la suite, parce que on se dit, attention, on est les champions du monde en titre. C'est dans 4 ans. Certains joueurs et membres de l'équipe actuelle, je pense, auront peut-être du mal à jouer dans 4 ans, et la relève, là, on le voit, est un petit peu... c'est pauvre, hein.
Bon, seule petite satisfaction, ils sont quand même qualifiés en finale.
Contre l'Espagne, il n'y avait pas photo.
Il n'y a pas photo, et puis ils s'en tirent plutôt bien contre l'Angleterre, même si les Anglais...
Et contre la Roumanie, le 0-0...
0-0, ils peuvent prendre 2 buts en fin de match,
Je pense qu'il
y a eu la réussite quand même pour cette équipe de France.
Je pense qu'ils jouent en équipe de France et qu'ils sont un peu suffisants, les jeunes, là.
Juste pour terminer, je pense qu'il y a eu pour moi deux erreurs. La première, c'est qu'on les a vus, puisqu'ils s'étaient qualifiés pour les jeux, ça y est, c'était fini. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas d'entendre les médias. Moi, je me demandais même.
Ça fallait arriver en demi-finale pour aller aux jeux.
J'entends bien. Mais une fois qu'ils ont eu leur place en demi-finale, alors que moi, je les aurais gardés motivés. Et après, je trouve qu'il y a eu une erreur un peu médiatique, marketing ou que sais-je. Je sais pas si vous l'avez vu, cette image de Deschamps qui est côté de
Ripoll. Qui est venu faire les discours à Clairefontaine.
Exactement. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement au niveau de l'image. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes sont sur leur Instagram, leur téléphone, leur machin. Toute la journée, et que moi, si je suis joueur, je me dis, merde, c'est qui le patron? C'est Ripoll ou
c'est ça le problème.
Ou c'est Deschamps? Donc, encore une fois, un peu à l'envers le truc.
Alors, finale Allemagne-Espagne aujourd'hui dans ce championnat d'Europe Espoir, et puis pour la Coupe du Monde féminine, eh bien, on aura donc en demi-finale Angleterre-USA et puis Suède-Pays-Bas.
En espérant que le niveau de jeu sera supérieur à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant.
Ah ben les équipes qui jouent pas mal. Moi, j'attends de voir les Américaines face aux Anglaises.
Oui, ça va être peut-être plus équilibré qu'on ne le pense.
Peut-être que les Anglaises, c'est une des meilleures équipes qu'on a pu voir jusqu'à maintenant.
Allez, Jean-Jacques, lui, il est venu nous parler un peu de faire le bilan de la sélection boxe française.
Je suis désolé, j'ai pas pu suivre les matchs de foot. On avait entraînement.
Mais c'est pas grave. C'était compliqué. Alors, Jean-Jacques, comment s'est passée cette saison? Et moi, j'ai envie de vous demander quelle est votre recette. Parce qu'il y avait Cassandre Frémaux qui a été championne du monde, Gabriel Bailleul, championne de France et championne d'Europe. Quelle est votre recette?
Je crois qu'on fait des belles équipes avec les athlètes, voilà, c'est tout. Sinon, il y a le secret, c'est plutôt persévérance, régularité dans les entraînements, c'est l'entraînement qui paye. Effectivement, Cassandre Frémaux, elle était double championne de France, championne du monde cadette.
Oui, on l'a vu à ses micros, on se rappelle.
Gabrielle a été championne de France, championne d'Europe cadette l'année dernière.
Bon, là, elle a pris un petit week-end, elle devait venir, mais bon, elle profite de la fin de saison pour prendre un petit week-end.
Oui, elle a bien mérité, parce qu'elle sort de stage d'équipe de France qui était assez dur, donc elle a bien mérité de se reposer. Et donc, effectivement, cette année, pour la première année chez les adultes, elle est championne de France, elle a tout claqué, et voilà, elle est arrivée, elle a fait la surprise. Championne de France chez les adultes, elle est qualifiée pour les championnats d'Europe qui auront lieu en octobre. Et elle ira même, et là c'est tout nouveau, on vient de l'apprendre il y a quelques jours, il y aura des jeux, on va dire, mondiaux d'arts martiaux qui en Corée en début septembre. Il y aura 110 pays, 4000 athlètes.
Vous allez l'accompagner, non?
Non, là je ne pourrais pas encore. J'ai réservé déjà pour Gênes, pour l'Europe. C'était compliqué pour la Corée avec le travail, c'est pas facile.
Bon, vous êtes combien à la section boxe française de Rambouillet?
Cette année, on est 112. On a une personne de moins. Vous voyez, les filles foot, on a perdu des personnes.
Autant de filles que de garçons. Ça, c'est une des particularités de votre sport quand même.
On est 45% de féminines, comme au niveau national. On est actuellement tout près de 60 000 licenciés et 45% de féminines.
Le taux de licenciés et de résultats, le pourcentage est incroyable. Parce que 112 licenciés avec le palmarès que vous sortez là ce matin.
C'est une des particularités de leur sport quand même.
Il y a plusieurs fédérations qui pourraient venir vous voir pour peut-être vous poser des questions.
Tout à fait, on est.
Ce qu'on peut trouver dommage, c'est que ce sport-là est méconnu.
On espère être en 10 plus sport démonstration, et c'est la même chose aux Jeux Olympiques, ça sera déjà pas mal, et pourtant c'est des athlètes formidables quand on voit les entraînements qu'ils font. Ce sont des vrais sportifs quoi.
Mais pardon de poser une question bête, comment se fait-il que la boxe soit olympique? et que la savate qui pourrait être le petit c'est frère, le cousin.
C'est
le...
un sport ancestral en plus.
Bien sûr, la savate, oui, bien sûr. Mais quand vous posez la question, il y a une raison valable.
Oui, c'est parce que la boxe anglaise est beaucoup plus répandue dans davantage de pays
dans le monde,
que nous, on est effectivement en France. Et puis il y a beaucoup de pays européens, un petit peu dans le monde, parce que là justement en Corée, à Changju, en septembre, elle va rencontrer des boxeurs de Thaïlande, de Chine, voilà, donc d'autres pays asiatiques, mais c'est très peu répandu.
Mais ça vous fait pas bondir d'avoir le qui est le breakdance? Alors ça j'ai toujours pas tout à fait compris. Et pas la boxe française.
Bah, si quelque part, oui. Ah oui, on comprend pas. Mm-hmm. Mais bon,
ça me rassure.
Il y a eu d'autres intérêts.
Faut que ça se vende, Fabien.
On en a parlé en aparté tout à l'heure avant l'émission, mais c'est sûr qu'ils ont besoin de rajeunir les disciplines.
Oui. Parce qu'on a vu l'occasion de voir des championnats de France à Coubertin. J'avais accompagné une fois la session boxe mentale. C'est un véritable spectacle. Hein.
On n'a rien envie à la boxe anglaise
hein. Quand on rentre sur le ring. Hein. Mm. On accompagne le boxeur, la boxeuse.
Oui, on a vu à Coubertin cette année quelques combats qui étaient formidables.
C'était il y a quelques années, nous.
On a retrouvé l'esprit de Coubertin il y a quelques années avec des combats. Avec Alexis Nicolas, enfin des gens comme ça, Fabregas, qui nous ont fait vraiment une démonstration de style énorme.
Bon, Jean-Jacques, on peut venir vous rejoindre maintenant pour la rentrée. Maintenant, mois de septembre, c'est possible.
Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Septembre, au forum des associations, on sera présent le 7 septembre. Et puis, premier cours le 11 septembre, on sera toujours prêt. Bon, on n'aura peut-être pas notre athlète, ça sera peut-être pas là, ça sera peut-être en déplacement.
Donc, c'est un sport très technique. Oui. Très mental, très physique.
Et aussi. C'est pour ça que ça va très bien aux filles, parce qu'elles sont très aériennes, très esthétiques. Ouais. Et c'est un sport qui va très bien. Ouais. Donc les footballeuses, si ça leur plaît pas, elles peuvent venir chez nous.
parce que ça, j'ai pas vu. Hein. Très aérienne, dynamique.
Non, mais c'est vrai qu'elles sont grandes et filles.
Précises.
Oui. C'est un peu le profil de la boxe
moderne. Moderne.
Elles sont grandes et filiformes, quoi. Hein,
oui,
c'est l'archétype de. Voilà.
Ah, c'est
comme quoi les Jeux Olympiques se tournent vers les lobbies importants comme la danse et délaissent des disciplines sports, qui sont formidables, hein, parce que moi j'ai eu la chance de voir un combat et c'est beau, quoi. C'est particulièrement beau.
Oui, tout à fait, et puis c'est extraordinaire parce que c'est le 5x2 quand on est en combat, mais c'est une tension qui est très très importante.
Ouais, hein,
et voilà, faut être explosivité, cardio, enfin voilà, on travaille sur beaucoup d'aspects physiques.
Il y a plein de petits sports comme ça, petits le truc. Mais il y a 15 jours, on a reçu un champion du monde de développé couché.
Sports
qui sont méconnus.
Mais pourtant, on a deux champions.
Voilà, on a des champions du monde.
Il est couché. Hein,
non, mais c'est sûr. Hein.
Non, mais il faut venir nous voir. Ne serait-ce que venir nous voir.
Aux auditeurs, vous êtes où? Moi, je le sais, mais bon, pratiquez votre sport.
Mardi et vendredi, c'est de 20h à 22h à la salle Dreyfus, une petite salle qui derrière la salle Patenôtre. Mercredi soir, on est au gymnase du Vieux-Moulin, de 20h30 à 22h.
On peut faire des séances d'initiation
à la rentrée, on peut venir sur la première séance notamment. Sinon après il y en a qui me demandent en fin d'année, mais là je ne peux pas parce que tout le monde a déjà acquis à un certain niveau et c'est trop dangereux, qu'on ne sait jamais.
Alors vous avez vu Cassandre, vous avez vu Gabriel, il y en a d'autres qui montent là dans les prochaines années, même chez les garçons.
Peut-être des espoirs. Après, bon voilà, il faut concrétiser. C'est pas facile d'allier études et entraînement sportif. Ouais. Gabrielle a bien réussi, elle a bien géré son année. Hein, ça n'a pas été facile. C'est un peu la tête et les jambes quand même, elle apprend bien, donc c'est un avantage. Mais c'est pas toujours simple. Hein. Mais peut-être.
Et ses objectifs, c'est maintenant de passer pourquoi pas de champion du monde.
Bah on aimerait bien, donc ça c'est l'année prochaine, parce que c'est une fois sur deux, c'est pour ça. Là elle a pas de chance, ça retombe sur le
championnat. Il y a des catégories comme à la boxe.
Oui, là.
Faut faire le poids, pareil.
Voilà, faut faire le poids. Il y a des catégories. Donc elle est en S60, c'est-à-dire en 56, 60.
Et c'est plus facile pour les filles que pour les garçons?
Quelque part, oui, parce qu'il y a une concurrence énorme. Chez les garçons,
ça doit taper comme moi.
Après, chez les filles, dès qu'elles, elle peut vite émerger, en fait.
Oui.
Si elle s'entraîne régulièrement, et si elle est motivée. Mm-hmm. Pour y aller, si elle passe un cran au-dessus, comme on dit tout à l'heure, bien oui, là,
il y a un âge minimum, quand même, pour.
Alors, nous, au niveau des alors, généralement, c'est à partir de 8 ans qu'il s'est considéré. Mm-hmm. Nous, on peut pas, si on n'a pas la structure, quelque part, sportive, surtout. Mm-hmm. On a les moniteurs, mais on n'a pas la structure sportive pour recevoir des enfants, c'est pas facile. Mm-hmm. Donc, on commence aux environs de 15-16 ans.
Oui. Et Jean-Jacques, c'est un peu l'homme à tout faire. Hein. C'est un peu le Giroud du club. Il est président, entraîneur, il fait tout. Comment vous êtes avant l'entrée d'un ring? Est-ce que vous parlez beaucoup à vos boxeurs, à vos boxeuses, ou vous laissez faire, ou c'est en fonction de l'individu?
C'est en fonction de la personne. On arrive sur l'aspect de coaching personnalisé quand même.
Bah oui, il faut bien les connaître.
Et justement, avec Gabriel, on a beaucoup travaillé. Ça a été une athlète formidable avec qui on a pu beaucoup échanger. Entre la préparation, il y avait le avant, en fait, la rentrée du ring, il y a le pendant, il y a le après. On a pu vraiment. Et c'est pour ça que ça a bien marché, je pense.
Vous n'êtes pas tout seul à entraîner les 112 quand même?
Parfois, si.
C'est l'homme à tout faire, c'est le fondateur du club, c'est l'homme à tout faire.
Quand j'ai 80 personnes au premier cours.
Et vous avez eu vous-même un très haut niveau?
Non. Paradoxalement, non. Je me suis arrêté au championnat de Normandie. Je pouvais pas parce que j'ai commencé plus tard. Je dirais trop tard peut-être, donc pour faire une grosse carrière sportive, mais moi j'ai développé après derrière.
Et pourquoi cette passion en fait? C'est les brigades du tigre?
Non,
ça sort à chaque fois ça.
Mais ça a beaucoup évolué par rapport à ça, parce que au niveau vitesse, explosivité, ça a énormément progressé. C'est fini le collant. Maintenant ils veulent plus de collant d'ailleurs. Ouais. C'est les tenues en deux parties maintenant.
Attention. C'est quoi la tenue justement?
Alors c'est soit la tenue monteur intégrale ou une tenue deux parties. t-shirt un peu serré, pantalon non pas de large. Hein, on est plus sur les Sparjack. Voilà effectivement.
Je trouvais ça beau moi pourtant. Je trouvais que ça ajoutait à l'esthétique.
Il faut venir les voir, les filles, maintenant, comment elles sont, elles sont bien. Hein.
Je vais te faire rendez-vous après. Je ne répondrai pas.
Il y a des ceintures comme au judo?
Non, ce sont des gants. Ce sont des gants, en fait, des passages de gants. Donc, il y a bleu, vert, rouge, blanc, jaune, et après le gant d'argent technique pour aller justement sur les compétitions techniques françaises.
Je sais que vous organisez de temps en temps certaines manifestations, certaines compétitions. Oui. Ça va être le cas là, sur 2020, ça arrive.
Oui,
c'est souvent au mois de janvier. Et pendant que des épreuves de course à pied une année, il y a eu le Red 28 qui était parti et il y avait le ring de boxe
Ça a permis ceux qui prenaient le départ de se reposer un peu.
Oui.
C'est génial.
C'est prévu.
Oui, c'est prévu. On a fait en 2019 la Coupe des Grandes Couleurs où le club de Rambouillet a ramené la Coupe du premier meilleur club, quand même, faut le dire. Comme les débutants ont ramené la Coupe du deuxième meilleur club. On a fait fort cette année. Et là, on va peut-être organiser une compétition open. Et on est en train de voir ça. Ça serait plutôt vers la 22 mars sur un rassemblement, en fait, de techniques. C'est-à-dire de personnes techniques. Et on en profiterait pour faire un hommage à notre premier champion de France qui a disparu l'année dernière, justement.
Ah bon?
Oui. D'accord. C'était Johan Busnou, faut pas l'oublier. Premier champion de France en 2013. Donc c'était, on fera un petit hommage. Ouais. Et ça, là, on va essayer de faire un grand prix technique. D'ailleurs, voir quelque chose de qualité au niveau de la boxe à l'origine.
Et Jean-Jacques, il y a beaucoup de bons clubs dans notre département ou dans notre région. L'Essonne n'est pas loin. Nous sommes dans les Yvelines. Est-ce qu'il y a beaucoup de bons clubs?
Il y avait Jean-Louis qui devait venir aujourd'hui pour le club des Molières, qui est un club jeune, qui commence aussi à bien progresser. Puis non, dans le 78, on a très bons clubs. On a Houille, qui est un club toujours présent au niveau des compétitions.
C'est le cas de le dire.
Ouais.
Oui. Et donc, oui, c'est ça. Ouais. Et après, on a Saint-Germain-en-Laye, on a le club de Verneuil, on a beaucoup de grands clubs quand même. Et on a eu de beaux résultats cette année aussi.
Très bien, Jean-Jacques, merci pour rester avec nous.
Oui, tout à fait.
Naturellement.
Mais je suis encore là pour en parler.
Bien sûr. Allez, on va envoyer la pub, la musique, et ensuite, on va aller prendre un petit cours de golf. On va essayer de voir comment on peut jouer au golf pendant ces vacances d'été.
14 bis rue Châles, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volets, portes et portes de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Châles à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
L'Electro France, des compagnons électriciens de Rambouillet. Des problèmes d'électricité? L'Electro France. Besoin d'un dépannage, d'un conseil électrique? L'Electro France. Une installation électrique ou d'éclairage LED? L'Electro France. Une rénovation électrique de maison, commerce, industrie, particulier ou professionnel? L'Electro France. L'Electro France, c'est une équipe avec un savoir-faire familial, toujours professionnel, avec une garantie décennale. L'Electro France, votre partenaire électricien proche de vous, c'est une équipe de compagnons électriciens qualifiés sur Rambouillet et sa région. Plus d'informations sur letpro-france.com.
Bienvenue au Savoyard 46 rue d'Angivillers à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard 46 rue d'Angivillers. Téléphone 01 34 83 35 77.
RVE, vivez votre région. RVE 103.7.
Viens donc faire un tour à Lambé.
Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à Lambé.
Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé.
Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à Lambé.
Y'a des chouchènes à volonté, viens donc faire un tour à Lambé.
Y'a des chouchènes à volonté.
Viens nous faire un tour à Lambé.
Si t'as rien trouvé pour squatter, viens nous faire un tour à Lambé.
Si ton mec vient de te plaquer, viens nous faire un tour à Lambé.
Si ton mec vient de te plaquer, viens nous faire un tour à Lambé.
Si du bouquin tu veux te jeter, viens nous faire un tour à Lambé.
Si du bouquin tu veux te jeter, viens nous faire un tour à Lambé.
Si pour Mélo y'a plus d'entrée, viens nous faire un tour à Lambé.
Région avec RVE.
Allez, 10h52 minutes. Fabien, on va partir en vacances. On sera là quand même cet été. Hein. Rassurez-vous, on se met à la grille d'été. Hein. On reviendra le 15 septembre. Mais on sera là quand même pour le Tour de France avec une émission spéciale entre 13h et 18h le 28 juillet. On sera là aussi au mois d'août pour les Kirando et pour le Paris-Brest-Paris. on va quand même avoir le temps de jouer un peu au golf. Alors, on peut jouer au golf pendant ses vacances, même sans avoir fait de golf. On peut s'y mettre. Et si oui, comment?
Alors moi, je dirais pas on peut, Philippe. On doit se mettre au golf. D'accord. Essentiel.
D'accord.
Évidemment que l'été est propice pour plusieurs raisons. Il fait beau, les journées sont longues. On peut chercher le frais le matin, on peut chercher le frais le soir. Il y a des stages dans tous les golfs. Il y a des moyens de s'initier dans tous les golfs, de faire un cours d'essai et de prendre le virus. Et forcément, juillet et août sont plus que propices pour se mettre au golf.
Alors, faut passer par des centres CPA, par des centres de vacances, on rentre dans des clubs de golf. Comment pour ceux qui vont être en congé?
Mais on rentre dans un golf. Alors, on peut rentrer dans un golf du CPA, on peut rentrer partout, quel que soit le golf, et on va se renseigner à l'accueil, et forcément, on vous proposera la possibilité de vous initier gratuitement. Au départ, et ensuite en fonction des golfs. Alors par exemple, ma société dans laquelle je travaille, nous on
chez
a des
golf,
chez YouGolf, on a des formules hyper attractives pour les débutants, puisque une fois qu'on est pris au jeu, on a cours à volonté, on a l'accès par cours à volonté, on vous offre une demi-série pour un prix moi que je trouve pour ce que l'on met à côté relativement modique, qui est entre 75 et 100 euros par mois. Vous avez, la possibilité de prendre une heure de cours tous les jours. Dès que l'enseignant vous a donné, et encore, vous pouvez, sur certains de nos parcours, aller tout de suite en situation jouer. Parce que on en discutait là avec Francis, lui a tapé sur le practice, mais chez YouGolf, notre volonté première, c'est d'aller directement sur le terrain. Donc si vous venez vous initier cet été, ou je dirais à partir de cet été, parce que j'espère que certains l'ont fait avant et d'autres le feront après, mais vous irez tout de suite sur le terrain, parce que j'envisage pas d'essayer le ski d'autre part dans la neige, ou d'apprendre à nager autre part que dans l'eau, et d'essayer la savate autre part que sur le ring. Donc voilà, donc évidemment c'est le moment idéal. Ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, le plus gros recrutement de golfeurs en France se fait au mois de septembre.
Ah bah oui,
pour une raison toute simple, c'est que les gens ont essayé en juillet ou en août, et tout de suite ils ont enquillent.
Comment que ça se passe, les niveaux golf, les handicaps et tout ça, pour quelqu'un qui connaît rien au golf comme moi?
Comment on sait à quel niveau on est? Il a intérêt.
18 trous, les handicaps, tout ça. Comment on peut savoir à quel niveau on est?
C'est hyper simple. Au golf, il y a qui est 9 trous, 12 trous, 18 trous. Chaque trou, on lui a donné une référence qu'on appelle le par, c'est-à-dire le nombre de coups idéal qui doit être à la base joué par un professionnel. Donc il y a des par 3, des par 4 et des par 5, suivant la distance du trou. Quand on débute, on vous donne un handicap, un classement de 54, c'est-à-dire qu'on vous donne la possibilité votre par plus 3. Et ensuite, vous faites des compétitions, et plus vous améliorez le score que vous réalisez, et bien plus votre classement descend pour arriver à zéro. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est qu'on peut aller dans le côté positif, parce que les meilleurs amateurs, femmes et hommes au monde, sont plus quelque chose. Mais 54, on débute, 0, on est le meilleur.
Un gars comme Tiger Woods, c'est un des meilleurs.
Ouais, non, alors un gars comme Tiger Woods, c'est
au-dessus,
c'est une légende. C'est comme si vous me demandiez que Jordan par rapport mais oui. Mais attention, quand on est professionnel, on n'a plus de handicap. Si je dois vraiment rentrer dans le détail, je vous donne quand on est pro, en fait il y a le brut et le net. Quand on joue de manière amateur, c'est un peu comme la feuille de salaire, il y a le brut et le net, donc on enlève les charges. Donc quand on est professionnel, on joue qu'en brut. Quand on est amateur, on déduit son handicap de son score brut.
Mais c'est bien d'avoir eu ces explications-là comme ça pour les débutants.
Juste un petit mot, il y a eu la canicule, comment fait-on?
Alors très sincèrement, on boit beaucoup.
Ouais, on boit beaucoup. Alors, ça peut le faire ou on peut...
Alors,
il vaut mieux
je trouve,
remporter
Philippe,
sa séance de golf.
Non, mais c'est une question géniale, pour une raison toute simple, c'est que le golf est un sport. On marche beaucoup, les parcours sont vallonnés, donc il y a un vrai effort physique, le cardio peut monter jusqu'à 120, 130, 140, mais évidemment, quand on tape la balle, il y a une concentration particulière, ou le cardio peut aussi monter. Donc évidemment, il faut faire hyper attention, beaucoup s'hydrater, une casquette, un parapluie ou un quelque chose, ouais, une serviette humide, bien sûr, parce que ça reste, vous savez, le golf, vous faites entre 6 et 9 bornes en plein cagnard, ça monte, il y a un vrai effort physique. Donc oui, c'est un côté préventif important. Mais on peut jouer tôt, pardon.
Oui, bien sûr.
On peut jouer très tôt au lever du soleil. Et puis là, ça fait partie évidemment des journées les plus longues. Et on peut jouer jusqu'au coucher du soleil.
Bien sûr. Bon, bah, très bien. Bah, merci Fabien. On se retrouve à la rentrée. On va tous se mettre au golf. Et puis on va parler de nos progrès.
Quand vous voulez.
Donc, enregistré. Merci en tout cas. Ça a été un plaisir d'être là pendant toute la saison. Puis vous repartez avec nous. Donc, chaque dernier dimanche du mois. Merci, messieurs, de nous avoir accompagnés. Je voudrais remercier, comme c'est la dernière pour la saison. Tiens, je vais faire comme Michel Drucker. Je remercie tout le monde. Je remercie nos très nombreux invités tout au long de la saison, hein, ceux qu'on a eu dans nos studios puis aussi au téléphone. Je remercie nos très nombreux interviewés qu'on a eu l'occasion aussi d'avoir toute la saison. Puis on va pas oublier les techniciens, hein, ils ont été une nouvelle fois très brillants, hein, à l'image de Bastien, mais aussi Arthur, Jean-Pierre et puis Damien. Voilà. Puis vous restez avec nous. On a encore un bel été. Donc surtout vous restez avec nous avec le Tour de France. Oui. Fabien.
Et puis nous, on voulait te remercier, Philippe.
Bah non, c'est un plaisir.
Pour ton enthousiasme, ta gentillesse et ton professionnalisme.
Ah bah c'est.
Change rien.
C'est un plaisir. Bah non, c'est pour ça qu'on est là depuis presque plus de 30 ans. Puis bon, c'est vous aussi les héros, hein. Faut pas oublier, hein. S'il n'y a pas les sportifs qui sont les héros, nous les journalistes, on n'est pas là.
Ouais, mais on a besoin de toi quand même.
Voilà, c'est bien. Merci en tout cas pour votre immense fidélité. On se retrouve donc comme prévu le 15 septembre, hein, pour la rentrée. Mais on l'a dit, il y a un bel été sportif. On sera là avec vous. Le Tour de France, les Kirando et puis le Paris-Brest-Paris. Voilà.
Bonnes vacances à tous.
Voilà. Et bonnes vacances à toutes et à tous. Bon dimanche, bonne semaine. Hervé qui passe demain donc en configuration gris été. Salut, bon dimanche, à bientôt.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, la canicule commence à diminuer. Un net rafraîchissement est attendu dès aujourd'hui par le nord-ouest du pays. L'atmosphère va donc être un peu plus respirable. La vigilance orange a d'ailleurs été levée pour une majeure partie du pays. Il n'y a plus que 30 départements.